Bonsoir à tous, il est 17h à Abidjan et en temps universel, 18h à Porto Novo, 20h à Djibouti, 13h ici à Washington. Bienvenue dans ce journal. Claire Morage-Dibourg à la présentation. Au Bénin, une deuxième personne est morte ce vendredi au lendemain de la dispersion par des tirs à balles réelles de manifestants dans le centre du pays, selon Denis Obachabi, le maire de Savé, où l'armée s'est déployée hier pour déloger des barrages de manifestants qui protestent contre l'absence de l'opposition à la présidentielle de dimanche. De nombreux habitants ont continué de quitter la ville à travers des chemins de brousse, craignant des violences et des représailles. Un peu plus au nord, à Tchaourou, les affrontements ont duré toute la nuit. Les gens n'osent plus sortir de chez eux, a témoigné une source locale sous couvert d'anonymat. Le président togolais Faure Gnassingbé, en visite officielle en France, a réitéré ce vendredi l'engagement total de son pays à œuvrer pour le rétablissement de la sécurité au Sahel lors d'un déjeuner de travail à Paris avec son homologue français Emmanuel Macron. Au Niger, 38 anciens membres du groupe djihadiste Boko Haram, dont 3 femmes, ont achevé hier à Goudoumaria, dans le sud-est, un programme de déradicalisation et de formation professionnelle. Ces repentis ont reçu chacun des outils pour monter leurs propres ateliers en mécanique, plomberie, menuiserie, couture ou soudure, et une formation religieuse sur la pratique de l'islam modéré, a indiqué Issa Lemine, le gouverneur de Diffa. En Côte d'Ivoire, suite du procès de l'ancien chef de milice, Amende Ouérémi, il a continué de nier toute sa responsabilité hier devant la cour d'assises d'Abidjan avant les réquisitions du procureur. Cet ancien chef de guerre est accusé d'assassinat massif, viol, traitement inhumain et dégradant commis dans la ville de Douékoué, théâtre des pires massacres en 2011 lors de la crise post-électorale. Jugé depuis le 24 mars, il encourt la prison à perpétuité. En République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle vendredi à Butembo, localité de l'Est, lors d'une marche contre l'inaction de l'ONU face aux massacres commis par des groupes armés dans cette région. À l'appel de mouvements citoyens et de groupes de pression, une grève générale de 10 jours a commencé lundi dans la région de Beni. Les Djiboutiens ont voté aujourd'hui pour l'élection présidentielle qui voit le sortant Ismaël Omar Guelleh se présenter pour un 5e et théoriquement dernier mandat. Quelques 215 000 électeurs inscrits étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour départager donc les deux candidats en lice, le chef de l'État Guelleh et l'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah. En Algérie, des slogans anti-français ont réapparu ce vendredi dans le cortège de manifestants anti-régime du Hirak lors de leur marche hebdomadaire à Alger au lendemain de l'annulation inopinée de la visite du Premier ministre français Jean Castex prévue dimanche dans la capitale. Le reste de l'actualité dans le monde, toujours en bref. Au Royaume-Uni, le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort ce matin à l'âge de 99 ans. Vent. Témoignage de sympathie et condoléances ont afflué du monde entier pour rendre hommage au prince. Jusqu'aux funérailles limitées par la pandémie du coronavirus, le Royaume-Uni observera une période de deuil national. Le président américain Joe Biden a mis en place aujourd'hui une commission d'experts sur une réforme de la Cour suprême, une des institutions les plus puissantes du pays, mais dont le fonctionnement fait l'objet de critiques régulières. Joe Biden doit signer dans la journée de vendredi un décret créant cette commission qui aura 6 mois pour rendre ses préconisations, a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué. Enfin, l'Agence européenne des médicaments a indiqué vendredi enquêter sur d'éventuels liens entre le vaccin anti-Covid AstraZeneca et des cas de problèmes de vaisseaux sanguins après avoir admis cette semaine qu'il existait des effets secondaires rares sous forme de caillots sanguins. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. C'était Claire Morage-Dibourg. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau bulletin d'information.
Nanit Talani vous présente la Minute Éco sur VOA Afrique. En République démocratique du Congo, les autorités ont annulé un contrat d'achat de 50 wagons suspecté de comporter de sérieux indices de corruption après la dénonciation d'ACAJ. Cette organisation citoyenne a saisi l'inspection générale des finances en invoquant le fait que le ministre des Transports, Didier Mazinga, a accordé le marché public sans appel d'offres. Et l'entreprise privée Sokin, qui a signé le contrat, est spécialisée dans le commerce des aliments, sans compétence particulière dans le ferroviaire. Les wagons étaient destinés à la ligne Kinshasa-Matadi. Le président angolais João Lourenço a promis de résoudre l'énorme dette de son pays en remboursant toutes les créances dûment certifiées dans le but d'encourager les investissements commerciaux de l'Espagne à la recherche d'opportunités à l'étranger pour renforcer son économie touristique durement touchée par la pandémie. M. Lourenço a admis que la dette était souvent un facteur d'inhibition pour les investisseurs potentiels. Terminons par le Togo, où les formalités de création des sociétés à responsabilité limitée se feront désormais exclusivement en ligne, selon une annonce du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La mesure censée réformer l'environnement togolais des affaires devrait aussi renforcer la tendance à la numérisation, écrit Togo First.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
À ne pas manquer sur notre antenne ce week-end.